Je vous ai peut-être oublié de vous dire que parfois il n'y a pas de réponse à ces questions et c'est ça la réponse. Alors ne vous en faites pas, que parfois c'est comme ça, mais ça veut dire toujours quelque chose, n'est-ce pas? Alors là, on est rentré dans comment est-ce que la personne, quelle est la séquence d'étapes qu'une personne fait pour devenir convaincue de quelque chose. Et vous savez, pour être convaincu de quelque chose, il y a en fait deux phases. D'abord, il faut ramasser un peu d'informations. Et après, quelque chose doit se passer au niveau de la personne pour déclencher le fait qu'elle soit convaincue. Alors, j'étais vraiment en colère quand j'ai découvert cette catégorie-là. Parce que vous voyez, je suis quand même une personne cultivée, logique, intelligente. Et donc, j'ai toujours cru que si j'étais convaincue de quelque chose, c'est parce que il y avait une raison d'en être convaincue. Vous voyez? Et quand j'ai compris que j'ai un schéma, un peu au hasard comme ça, j'en étais pas contente de le savoir. Parce que bon, on fait ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on fait. Bon, pas parce que c'est logique. Alors, j'étais pas contente de savoir ça. Alors, vous allez le savoir aussi, peut-être ça va vous plaire ou pas, mais bon, c'est comme ça. Vous avez des habitudes, même si elles sont pas logiques. Alors, je vous avertis à l'avance au cas où ça vous enrage un peu autant que moi. Peut-être pas. Peut-être que vous êtes des personnes plus patientes et tolérantes que moi. Ça se peut. Eh bien, la première question, c'est comment sais-tu que quelqu'un, un collègue par exemple, est performant dans son travail? On demande un jugement, on demande une évaluation. Donc, la personne va répondre. Et deuxièmement, on reprend ça, on dit... Et combien de fois devez-vous, et là on entame la réponse de la première question, devez-vous avoir cette évidence pour en être convaincu? Et la première chose qu'on va regarder, c'est quel est le type d'information que la personne va ramasser de l'environnement. Et donc ça c'est à la page 33, et on appelle ça le canal de conviction. Quel type d'information la personne recueille-t-elle pour déclencher le processus de conviction? Ça va vous sembler familier, je pense. Il y a le voir. Est-ce que la personne a besoin de voir un produit, une action, une personne? Est-ce qu'elle a besoin d'entendre ou d'écouter ou de dialoguer? Est-ce qu'elle a besoin de lire quelque chose? Est-ce qu'elle a besoin de faire quelque chose pour savoir? Vous voyez, ça ressemble, ça recoupe les systèmes de représentation en PNL. Mais vous voyez, Roger, c'est quand même celui qui a développé le profil-là, mais il a un esprit pratique. Au lieu de dire le visuel, il a dit voir. Donc, il a quand même pris un effort d'utiliser le vocabulaire de tout le monde. Alors, voir, c'est à peu près 55% de la population au travail. Entendre, c'est 30%. Lire, c'est 3%. Donc, si vous êtes dans la vente, par exemple, et que vous allez chez un prospect, et le prospect vous dit, envoyez-moi quelque chose, c'est parce qu'il y a besoin de lire. Un prospect, c'est quelqu'un que tu espères va acheter ton produit ou ton service. Donc, il n'est pas encore un client.
C'est un futur client.
On espère. 3%. C'était en bas de la page 33. Alors, les mauvaises nouvelles pour ceux qui produisent les brochures de marketing, il n'y a que 3% de la population qui lisent et retiennent ce que vous avez écrit. Donc, c'est des mauvaises nouvelles, mais il faut quand même les produire, ces choses-là. Dans la formation, ça arrive tout le temps. Tu envoies le curriculum du programme, tout le monde le lit, les personnes choisissent quel cours ils veulent prendre, ils arrivent dans la salle de cours, pas la moindre idée de pourquoi ils sont là. Ça vous arrive pas? Oui. C'est parce qu'il y a le 3% qui utilisent la lecture comme moyen de se convaincre. Et faire, c'est 12%. Ce sont les gens qui ont besoin de travailler avec quelque chose comme moyen de ramasser l'information. Et dans ce contexte-là, la question étant comment savez-vous que quelqu'un est performant dans son travail? Mais je dois travailler avec. Ok, ça c'est cette réponse-là. Donc, la réponse est assez claire pour la première réponse, n'est-ce pas? Vous pouvez déployer ça, mais on va continuer à la deuxième question. Ça, c'est le mode de conviction. Que doit-il se passer avec l'information recueillie pour provoquer la décision ou la conviction d'une personne? Et ça, c'est à la page 35. Et là, c'est là où ça m'a enragé, parce que il paraît que j'ai un schéma de nombre d'exemples deux. Ça veut dire que quand j'ai vu ou j'ai travaillé ou j'ai entendu quelque chose deux fois, je suis convaincue. Alors, au moins dans ma vie, j'ai décidé que c'est peut-être un atout, que au moins je connais mon schéma. Donc, quand je deviens convaincue de quelque chose, je vérifie une troisième fois, juste au cas où. Voyez-vous? Elle est tordue, oui.
Est-ce que ça peut avoir un rapport, le nombre d'exemples ou de fois, avec le fait qu'on est proactif ou bien réactif ?
Rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
J'aimerais expliquer les schémas. Nombre d'exemples, c'est 52% de la population dans le contexte du travail a besoin d'avoir les données un certain nombre de fois pour en être convaincu. Dès qu'elle a son nombre requis, ça y est, c'est déclencher la décision. Dans le monde de la publicité, il y a une croyance que la plupart... Il y a une croyance dans le monde de la publicité qu'un auditoire a besoin de recevoir un message 6 fois pour en être convaincu. Ça explique pourquoi tu es en train, mine de rien, d'écouter la télévision et que les mêmes pubs... Mais ce que je me rends compte maintenant, c'est que je pense que la plupart du monde a un nombre d'exemples de 3. Parce que vous allez voir au-delà de 3 exemples de la même pub, c'est trop.
On est saturé.
On est saturé. Mais aussi des tendances et les modes et les croyances dans la société, c'est souvent à base de 3 exemples. Donc la majorité de la population, 52%, c'est déjà nombre d'exemples et chacun a son nombre précis à lui. Le deuxième schéma, c'est ce qu'on appelle automatique. C'est 8% de la population. Et ça, c'est une personne qui prend une petite partie de l'information et elle imagine ce que c'est le reste et elle décide tout de suite. Malheureusement pour moi, c'est mon schéma quand j'achète des voitures. C'est-à-dire, je prendrai celle-là. Mais madame, vous ne voulez pas l'essayer? Non, ce n'est pas nécessaire, c'est celle-là que je vais. Ça pose des problèmes des fois parce qu'on décide rapidement. Parce qu'on prend une partie de l'information, on se fait une idée et paf, on décide. Si vous travaillez avec des gens comme ça, c'est rare qu'ils changent d'avis. Ils décident tout de suite et ils ne changent pas d'avis. C'est fermé, c'est clos. Okay? Ensuite, il y a et automatique, c'est 8% de la population dans le contexte du travail. Le schéma suivant, et c'est le schéma du sceptique parce qu'il n'est jamais convaincu. Et c'est celui qui dit, bon, moi je vais vous raconter comment le dépouiller après, mais il n'est jamais tout à fait convaincu. C'est-à-dire que peut-être c'est un client et vous avez fait du bon travail avec lui aujourd'hui, il revient demain et il n'est pas convaincu. Tu es à la case départ, tu n'as pas d'argent en banque avec lui. Donc à chaque fois que vous rencontrez ces gens-là, il faut rétablir la crédibilité et le rapport. Parce que tous les journées, c'est une nouvelle journée. C'est pas parce que tu as bien travaillé hier que ça veut dire que tu vas travailler bien demain. C'est quand tu fais le recrutement pour les gens qui font contrôle de qualité, c'est ça que tu cherches. Parce que si tu as quelqu'un, un nombre d'exemples, il va dire, bon, Laurent a fait le travail 3 fois, c'est bien, bon, on peut compter sur lui. Donc, il ne fait pas de contrôle de qualité. Mais si tu as quelqu'un avec un schéma consistant, il va vérifier à tous les coups, parce qu'on ne sait jamais. Donc, il n'est jamais convaincu. Une fois qu'on est convaincu, ça veut dire que la boîte est fermée. On n'ouvre pas. Voyez-vous? Donc, les gens qui sont convaincus de quelque chose, c'est fermé. Mais quelqu'un avec un schéma consistant, dans ce contexte-là, peu importe ce qui arrive, il va dire, bon, c'est bien cette fois-ci, mais on ne sait jamais pour l'avenir. Donc, il ne va pas admettre d'être convaincu. Quand on est dans un mode sceptique, c'est un peu ce schéma qui est en jeu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est sceptique lorsqu'on est dans le consistant, mais lorsqu'on est sceptique, on fait de la consistance. Moi, en riant, j'ai nommé ce schéma le schéma de Scarlett O'Hara. Demain, c'est une autre journée. C'est différent, c'est nouveau. Et ensuite, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un nombre d'exemples, mais plutôt une durée dans le temps. Et ça, c'est 25% de la population. Donc, ce n'est pas un nombre d'exemples, on ne doit pas leur montrer 3 choses. C'est de peut-être dans le temps. Okay? Est-ce que vous voulez savoir comment dépouiller les réponses? C'est à la page suivante, 36. Donc, pour les modes de conviction, donc il y a deux catégories dans la conviction. Il y a le canal de conviction, voir, entendre, lire, faire, et mode de conviction, nombre d'exemples, automatique, consistant et durée. Nombre d'exemples, et la question c'est fait pour ça. Combien de fois faut-il pour que? Alors, le design, c'est qu'on pousse vers le nombre d'exemples. Soit la personne, il y va, elle donne le nombre, ou 2-3 fois, ça suffit. Ou elle n'est pas capable de répondre à cette question de cette manière-là, et c'est un des autres schémas. Donc, c'est pour ça qu'on écoute exactement ce que la personne dit. Donc, nombre d'exemples, c'est clair. Automatique, elle va dire, oh, je sais tout de suite. Je donne le bénéfice du doute. OK? Consistant, elle va dire, mais il faut juger à chaque fois. Et elle ne va pas admettre d'être convaincue. Donc, tu peux le pousser. Tu lui dis, mais mettons, elle le fait bien 10 fois. T'es convaincue? Ouais. Ça veut dire quoi? non. Parce qu'elle n'est pas convaincue. Convaincue, ça veut dire c'est fermé, c'est fait. C'est acquis, n'est-ce pas? Donc, consistant, elle juge chaque fois, elle n'est jamais vraiment convaincue. Et durée, mettons, tu dis combien de fois tu dois voir qu'elle travaille bien pour en être convaincue. La personne va peut-être dire, tu veux dire pendant combien de temps? Là, tu dis oui. Donc, ce n'est pas un nombre de fois, c'est une durée. Mais tu sais, si elle travaille bien pendant 3 mois, c'est bon, hein? Okay. Donc prenez une minute avec votre partenaire, je ne pense pas que ça prend plus de ça, pour dépouiller et je répondrai aux questions après. Eh bien, alors il y a des questions sur le canal mode de conviction, il y en avait une question là ou un commentaire. Vas-y, Christiane.
Oui, en ce qui concerne ma réponse à la question combien de fois, j'ai eu cette phrase un peu normande, ce que je t'ai dit tout à l'heure, un certain nombre. Bon, j'ai un peu honte en le lisant maintenant.
Est-ce que c'est la même chose qu'un nombre certain?
Non.
Parfois, la personne ne sait pas consciemment le nombre. Alors, je donne deux indices. Parfois, elle le glisse dans la réponse à la première question. Par exemple, comment sais-tu que quelqu'un d'autre est performant dans son travail? Ben, quand je le vois 3 fois. Combien de fois dois-tu le voir? Oh, je sais pas, un nombre certain. Ça m'est arrivé déjà d'entendre les réponses comme ça. Donc, on peut aider la personne. Christian, par exemple, comment sais-tu que quelqu'un est performant dans son travail?
Alors, ce que j'ai répondu, c'est quand je vois le comportement de la personne, il y a un certain nombre d'indicateurs. J'observe.
Le même nombre.
J'observe un certain nombre de choses.
Ok, mettons un certain nombre d'indicateurs. Alors, combien de fois dois-tu l'avoir un certain nombre de fois avec un certain nombre d'indicateurs? Combien de fois que tu me réponds à moi, ok?
Combien de fois?
Oui, réponds ce qui te vient.
Je ne sais pas.
Voilà. Alors, mettons que tu la vois avec un certain nombre d'indicateurs 3 fois et qu'elle le fasse bien. T'es convaincu? On la regarde, qu'est-ce qu'on dit? Non, pas encore. Donc, mettons, tu as tous tes indicateurs, ton certain nombre d'indicateurs en place 5 fois.
Elle est consistante,
là. En attendant, si elle le fait comme ça 20 fois...
Non, c'est peut-être beaucoup, là.
Donc, ok, alors 15 fois, elle le fait? Elle le fait avec ces indicateurs-là? Tu es convaincu qu'elle est performante?
Non, je crois que je ne suis pas dans le X fois, ne me cause pas du tout.
Alors?
Je suis plus dans la durée.
C'est ça, un certain temps, d'accord.
Pendant... Ne rigole pas, mais c'est terrible.
Je ne suis pas convaincue, pas encore. On va tester. Hein, on a notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique. Alors, Christian, mettons que tu as ton nombre d'indicateurs pendant 1 mois de temps. Est-ce que tu es convaincu qu'elle est performante? 2 mois, 3 mois, 6 mois de temps?
Je crois qu'il y a le mélange des deux, durée et nombre de fois des indicateurs.
Mettons tu as tout ce nombre d'indicateurs et tout est bien pendant 3 mois de temps. Est-ce que tu es convaincu qu'elle est performante? Je pense que oui.
Je pense que oui.
Mais, non, c'est pas... Vous voyez, je fais mon mieux par tous les côtés pour voir si elle arrive à être convaincue. Et à chaque fois, il y a une semelle de doute.
J'ai la réponse. En fait, c'est contextuel. Et je crois que j'ai pris un contexte où la performance, entre guillemets, le mot performance ne me convient pas parce qu'il est dépendant d'autres.
Mettons compétent, ok, on va changer de mot, mais c'est vrai, tout ça c'est vrai et c'est contextuel, mais le processus que je vais mettre en place, j'ai essayé par tous les moyens pour faire en sorte de savoir à quel moment ou à combien de fois que Christian soit convaincu dans ce contexte-là. On n'a pas réussi à dégager la conviction. Ça veut dire que dans ce contexte-là, dans cette manière-là, c'est un exemple d'un consistant. C'est pas à propos de toi en tant que personne, mais dans cette situation-là, à la manière qu'on a fait ça, c'est consistant.
Alors j'ai une réponse avec compétent beaucoup plus rapide.
Pour toi, c'est un autre contexte, c'est ça. C'est une autre façon de voir ça. Il y avait un autre exemple, tu avais un exemple aussi.
Là, on parlait de nombre de fois et puis de convaincu, pas convaincu, etc. Et moi, j'ai dit que c'était non seulement le contexte, mais quelquefois une toute petite partie du contexte. Et j'ai pris l'exemple du fait qu'on était allé voir un moi-thérapeute avec une amie qui nous avait été indiquée. Et moi, j'ai été enchantée. J'ai eu un critère qui m'a vraiment convenu, donc c'est nickel, c'est quelque chose qui me convient.
Alors, c'est quel schéma ça?
Ça, c'est automatique.
Oui. Tu savais tout de suite.
Là, j'ai su le lendemain que ça m'a
fait
un bien fou.
Okay. Voilà.
Et cette personne a dit à moi et à cette amie-là qu'au niveau de l'alimentation, ça c'était ok et ça c'était pas ok, et c'était spécifique pour chacune d'entre nous, il avait testé pour chacune d'entre nous. Et dès qu'il a dit ça, j'ai dit, oh là là, lui il est grillé, il dit à cette personne de ne pas manger ce qu'elle aime grignoter de temps en temps, donc c'est sûr, lui, elle n'ira plus le voir. Ben, ça n'a pas raté, elle n'est pas retournée le voir, parce que, voilà quoi, elle a focalisé
la structure par rapport à tout ce qu'on a vu là.
Elle a fait, elle était convaincue à partir, c'est automatique aussi, elle a décidé tout de suite. Elle n'a pas décidé la même décision, mais elle était convaincue tout de suite.
Oui, il y avait un critère.
Parce qu'il, voilà, un critère pas rempli, voilà, c'est bon. Et il y a un autre exemple qu'on avait parlé avec Christine. La personne, toutes les deux, vous avez dit combien de fois? La première fois. Alors, ce qu'on cherche à savoir, est-ce que l'animatrice est performante dans son travail quand je le vois animer un stage ou un après-midi?
Oui, moi je dirais.
Comment tu dirais?
Pour moi, la matinée.
Ok, donc ça c'est durée.
Pour moi c'était.
C'était pas un exemple, c'était une durée, une période de temps. Ok, donc vous voyez, on peut jouer avec ça. Pourquoi c'est important de savoir ça? Maintenant, la vente, c'est évident. Quel est le processus de prise de décision de la personne? La raison pour laquelle on dit quelqu'un d'autre, si tu fais combien, comment sais-tu que tu es performant dans ton travail, tu finis avec externe et interne. Je sais moi-même où j'ai des évidences de l'extérieur, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. On cherche à savoir quel est le processus que la personne utilise pour se convaincre de quelque chose. Donc on prend quelque chose en dehors d'elle-même, qu'elle doit évaluer. C'est pour ça qu'on ne fait pas son propre travail à elle-même. Ok? Donc, comment sais-tu qu'un produit sera, un produit que quelqu'un te vend sera performant? En tant que conseiller en formation, je vais peut-être demander à mes prospects, mettons, vous avez fait déjà de la formation, vous avez eu des opérations en entreprise, comment saviez-vous que c'était bien? Prenez l'exemple que vous avez apprécié et que ça a bien marché. Comment savez-vous que c'était bien? Oh, quand on a vu des réactions des gens et quand on a eu des résultats concrets dans les rapports. Bien, combien de fois il a fallu que tu aies eu ça pour que tu sois convaincu que ça a marché? Oui, donc ça donne le processus de décision. S'ils ont besoin de trois exemples, mais alors dans votre processus de prospection, il faut donner trois exemples de quelque chose. Vous l'assortissez. Dans l'apprentissage, des étudiants, parfois il y a des étudiants qui ne réussissent pas à l'école parce qu'ils ont besoin de nombre de répétitions au-delà de ce qu'ils reçoivent normalement. Mon fils Jason, quant à la mathématique, lorsqu'il était jeune, je me suis rendu compte qu'il avait besoin de faire une dizaine d'exemples d'une opération mathématique pour en être convaincu qu'il maîtrisait. Mais à l'école, on donne 4-5 exemples, on passe à autre chose. Donc j'ai demandé de plus pour lui pour qu'il puisse arriver au point où il est convaincu qu'il le sait. Dans la psychothérapie, si votre client n'est pas convaincu de la stratégie de réussite, elle ne va pas le mettre en œuvre. Convaincu consciemment, inconsciemment. Et imaginez, vous avez un client en psychothérapie ou en coaching qui est consistant. C'est-à-dire que vous allez travailler des stratégies et qu'elle a un schéma option aussi. Ça fait quoi? C'est-à-dire qu'elle n'est pas engagée à la stratégie. Hein? Elle remet en question à chaque fois. Et donc, vous utilisez le langage persuasion assorti. On va voir ça.
Je réponds en pourcentage. Là, c'est pas un nombre de fois. Si elle accompagne 300 personnes et qu'elle a.
C'est un nombre d'exemples qu'elle cite en pourcentage, c'est tout. C'est un nombre. 60%, c'est 60 personnes sur 100 personnes.
Ah ouais,
quand même. Nombre d'exemples, vous utilisez le nombre d'exemples. Et ça vous prendrait peut-être 3 ou 4 fois de pratiquer les compétences de Profil Lab avant que vous soyez convaincu que vraiment ça commence à rentrer dans les jeux, n'est-ce pas? Et parfois ça prend un certain temps, hein? Quand même, c'est pas du jour au lendemain nécessairement. Parfois ça va prendre une période où vous jouez avec ça pour que ça rentre dans vos compétences. Et il y a des fois aussi où vous n'êtes pas complètement convaincu. Et donc à chaque fois que vous essayez ça, c'est comme si c'est tout frais, tout nouveau. Et parfois tu sais tout de suite.
Mais alors ça c'est Là aussi, merci du cadeau.
De rien, de rien. Donc, vous vous assortissez ça au langage de la personne, au schéma de la personne.
En ce qui me concerne, ce qui m'a un peu gênée, c'est...
Ok, une personne à la fois, s'il vous plaît. Allez-y.
Parce que dans la question, il y avait combien de fois. Et quand j'ai voulu y répondre, j'ai cherché en nombre. Et en fait, j'ai répondu, je me suis dit, puisque je dois répondre un nombre...
Est-ce que, excusez-moi, s'il vous plaît, si on peut avoir une personne à la fois. Merci.
Puisqu'on me demande un nombre, je vais répondre un nombre. Mais j'ai dit, au hasard, j'ai dit 2-3 fois, mais ça m'a semblé pas juste.
Et justement, vous allez voir ça. La question, le design des questions, c'est qu'on tend la personne vers le nombre de fois et on constate la réaction.
Voilà, c'est ça.
C'est fait exprès. Ouais. Alors, toi, tu as essayé de répondre à la question, mais ce n'était pas convaincant. Alors, justement, c'est comme ça que ça marche, tu veux dire. Tu as un mimique de pas content et tu luttes avec ça. Et on sait très bien, c'est pas nombre de fois. Et donc, ça doit être lors des autres. C'est ça. Et par exemple, moi, je vais constater ça. Je vais dire, Nathalie, donc c'est pas un nombre de fois. Alors, c'est... Et là, elle va commencer à réfléchir. Elle va faire autre chose. Mais je veux donner une occasion pour voir si la personne le sait tout de suite. Si elle n'est jamais convaincue, peu importe le nombre. Ou vraiment, elle fonctionne sur une durée de temps. OK ?
On va faire une rectification.
Parce que tu n'étais pas convaincue de la manière qu'on l'a fait la dernière fois, peut-être.
C'est extraordinaire.
En fait, le mot performance...
Ça ne va pas non plus.
Le mot performance n'allait pas, parce que pour moi, performance, c'est ma croyance. Ça veut dire qu'on a un taux de réussite sur des objectifs. Et dans mon exemple contextuel, le taux de réussite par rapport au cahier des charges, c'est quand même très léger. Par contre, compétent, j'ai la réponse tout de suite.
OK. Alors, comment sais-tu que quelqu'un est compétent dans son travail?
Donc, j'ai les mêmes indicateurs de réussite que j'additionne, mais effectivement, en un mois, grand maximum, je sais.
Ok, voilà. Vous voyez, c'est contextuel, très contextuel. Recrutement, c'est très important, ça. On préfère, parfois, parce qu'on cherche ce qu'on veut, et parfois, il y a des schémas d'exclusion. Par exemple, un cadre dirigeant. Est-ce que vous voulez qu'un cadre dirigeant ait un schéma automatique?
Non.
Non, pas tellement. Le reste, c'est pas gênant, mais automatique, ça, c'est gênant. Vous voyez, donc vous pouvez procéder par les schémas que vous voulez ou les schémas à exclure.
Et consistant non plus
Consistant non plus. Si le cadre dirigeant doit être suffisamment convaincu qu'il convainc tout le monde, il ne faut pas qu'il remet en doute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça non plus. Un chercheur scientifique, être consistant, c'est bien ça.
Oui, parce qu'il se vérifie.
Il vérifie à chaque fois avec une méthode. Rigoureuse, j'espère, empirique et même peut-être même scientifique. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois que je vous dis que c'est contextuel depuis hier matin, avant hier même, pendant toute cette période de temps. Et à chaque fois qu'on mentionne, est-ce que c'est toujours comme ça, je dis la même chose. Et vous savez tout de suite que c'est comme ça. Vous voyez, j'ai fait le tour là. J'ai fait le tour. Et je pense qu'on est arrivé à l'heure du dîner. Merci beaucoup.
Parce que ça fait 15 ans que vous maîtrisez votre...
Et parce que je produis des CD.
Ah, d'accord.
Et là, maintenant, on va parler de la réponse sous stress. Ça, c'est la réaction qu'une personne va avoir dans un contexte donné lorsque les choses sont stressantes. Nous ne parlons pas des catastrophiques, des événements catastrophiques dans la vie. On parle des choses stressantes, c'est-à-dire des choses qui sont problématiques sans que ça soit vraiment la drame de la vie. Tout le monde a une réaction émotionnelle au drame de la vie et donc c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir quelle est sa réaction lorsque les choses sont stressantes ou problématiques d'une manière normale pour le contexte donné. Ok, vous me suivez? Et c'est sur quelle page là? C'est
25.
Donc il y a 3 schémas. Merci. Le premier schéma, c'est le schéma sentiment. Alors ça marche de la façon suivante, c'est-à-dire qu'une chose stressante ou problématique arrive et quelqu'un qui a un schéma sentiment dans ce contexte-là, il va avoir une réaction émotionnelle et il va être coincé dans l'émotion pendant longtemps. C'est-à-dire, une fois rendu dans l'émotion, il a du mal à s'en sortir. Okay? Deuxième schéma, c'est ce qu'on appelle choix, et c'est évident pourquoi. S'il y a quelque chose de problématique ou de stressant qui arrive, la personne va d'abord avoir une réaction émotionnelle, puis après va choisir si oui ou non il reste dans l'émotion. Soit il va revenir à son état normal, ou il reste dans l'émotion, mais l'idée c'est qu'il a le choix. Alors que dans le premier cas, l'autre est coincé dans l'émotion. Ok, vous me suivez? Mm-hmm. Troisième, c'est ce qu'on appelle analyse ou pensée. Il y a les deux traductions. Et ça, c'est quelqu'un face à une situation de stress, n'a pas de réaction émotionnelle. Si vous voulez recruter quelqu'un qui est chargé de la sécurité à un réacteur nucléaire, tu veux quand même que cette personne a une réaction sous stress analyse. Au moment donné, j'ai donné un cours public au Lab Profile à Ottawa et j'ai eu trois personnes venant du ministère du Transport qui recrutent des contrôleurs aériens. Et ils sont intéressés parce qu'en 4 minutes, tu peux déterminer qui peut et qui ne peut pas faire le travail. Parce que c'est la réaction au stress qui est très importante. OK? Alors, vous avez sûrement remarqué qu'au lieu qu'on fait question-réponse, cette fois-ci, j'ai expliqué les schémas à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on va dépendre de vos capacités d'observation dans le comportement non-verbal pour déterminer quel est le schéma d'une personne. Donc, ce n'est pas un schéma linguistique qu'on cherche, c'est dans le non-verbal. Alors, regardons, c'est sur la page suivante, page 26. Comment est-ce qu'on fait pour identifier ces schémas? Bon, il y a une question. La question, c'est parlez-moi d'un projet de travail, mettons dans le contexte du travail. Parlez-moi d'une situation ou d'un projet de travail qui vous a causé de la difficulté. Et là, souvent, ce que je fais, c'est que je précise. Je vais dire, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant une catastrophe et 1 étant un problème où tu t'en fous complètement, tu me donnes un 3 ou un 4, juste pour que la personne comprenne bien ce que tu cherches. Et là, tu fais en sorte que la personne choisit une situation. Parce que si elle dit, bon, toutes les fois où les clients sont pas contentes, toutes les fois où les clients sont pas contents, ça me dérange. C'est pas une situation. Donc tu demandes à la personne, oh, racontez-moi une situation comme ça. Tu veux une situation précise pour pouvoir mesurer. Et là, vous êtes en train d'observer et d'écouter. Je fais ça au téléphone aussi, bien sûr. Et ce que tu essaies de regarder, c'est des changements dans les micro-comportements. Okay, donc, vos capacités d'observation sont importantes. Alors, ça fait, jusqu'à maintenant, la personne a parlé comme elle a parlé. Vous avez fait toutes les compétences les schémas de motivation. Et après, vous dites, parle-moi d'une situation de travail qui était problématique pour toi, un 3 ou un 4 sur 10. Et là, on essaie de voir si la personne fait des changements non-verbaux. Alors, pour la personne qui a un schéma sentiment, vous allez voir qu'elle rentre dans l'émotion, elle reste là. C'est-à-dire qu'elle va avoir des changements dans ses comportements, elle va garder ses changements pendant tout son récit. Si elle a un comportement choix, elle va rentrer dans l'émotion et au moins une fois, elle va s'en sortir. Et si elle a un schéma d'analyse, elle va continuer à parler comme elle parlait avant, sans aucun changement dans les comportements. Alors, quels sont les comportements qui vont changer lorsqu'une personne a changé d'état émotionnel? Sont les suivants. La posture du corps, la tension musculaire du visage, elle va peut-être baisser des yeux, la voix va changer, le ton, le timbre, le volume, etc. Donc, tous les micro-comportements, la respiration, ça peut changer, etc. Et ce que vous essayez de voir, c'est est-ce que ça change? Si ça revient à ce qu'elle faisait avant, ça c'est choix. Si elle change, mais elle reste dans les nouveaux comportements, elle ne s'en sort pas, ses sentiments. Et s'il n'y a pas de changement, c'est analyse. Alors là, j'aimerais faire une démonstration. Ça vous aidera. Et après, vous allez pouvoir le faire entre vous. D'accord? Donc, j'ai besoin de quelqu'un. Je vais m'asseoir là. Oh, ça va faire du bien de m'asseoir. J'ai besoin de... Si tu veux me poser la question, Véronique... Et là, vous mettez où là où vous pouvez me voir et m'entendre bien. Alors, la question, c'est...
Parle-moi d'un projet de travail qui t'a causé la difficulté.
Parle-toi d'un projet qui m'a causé la difficulté. Alors, je cherche.
Alors, sur une échelle de 0 à 10.
C'était un 3 en 4. Voilà. OK. Ah oui. Il y a quelques temps, j'ai été invitée par une société qui donne des cours publics, les séminaires de formation. Que je fais de temps en temps de travail pour eux, aller faire une intervention auprès d'une banque. Et avant de commencer l'intervention, on a fait des focus groups pour savoir justement les besoins, etc. Alors, j'ai fait ces focus groups, ce groupe d'études. Et après, j'ai dû aller dans un centre de formation au nord de Toronto pour animer ce stage. Alors j'ai animé le stage et je pensais que ça allait assez bien. Je reviens et là j'ai un coup de téléphone de la société qui m'a embauché, disant que la femme qui était la cliente, elle était tellement fâchée de ma prestation qu'elle a refusé de payer. Alors j'ai essayé d'avoir cette femme au téléphone et j'ai pas réussi parce qu'elle répondait pas, elle me retournait pas mon message. Je voulais savoir qu'est-ce qui n'allait pas parce que je me suis dit que je suis quand même assez futée à lire dans les groupes. Je sais qu'il y avait une personne qui avait été envoyée et c'était clair qu'elle voulait pas être là, mais j'arrivais pas à la voir au téléphone, j'arrivais pas à savoir ce qui n'allait pas. Tout ce que je sais, que non seulement la personne n'était pas contente, elle voulait pas payer, et j'avais deux niveaux de clients là-dedans. Alors j'étais coincée, je savais pas quoi faire. Et vraiment, ça m'a laissé vraiment dans ma soif. Je pouvais rien faire pour résoudre la situation. Et ça m'a causé de la difficulté.
Pas complètement, parce qu'il y a eu un mouvement du corps.
Non, c'est pas analyse, c'est sentiment.
Bah, je dirais, il y a un début d'analyse.
Non,
il y a
une analyse.
Moi, je dirais choix, parce que choix, oui. À deux moments, tu as été première qui ont rougi beaucoup plus. Oui. Et tu as tes yeux qui ont plongé. Et tu as eu ce signe physiologique deux fois.
Mais elle est restée dans
la posture aussi.
La posture,
elle n'est pas sortie de l'état émotionnel.
Elle est émotionnelle.
Si tu devais deviner que si je ressens le sentiment encore, qu'est-ce que vous diriez ?
Il y a la respiration.
C'est le sentiment. Elle est encore dans
le sentiment. Je l'ai toujours là.
Elle
n'est pas sortie. Je suis toujours pas sortie là. Ok, bon.
Moi, j'ai l'impression que tu as commencé par une phase d'analyse.
Ok. Justement, on va procéder par observation parce que bon, tu poses la question à une personne. Bon, je change de place la chaise de toute façon. Bon, si vous voyez qu'il y a quelqu'un dans les sentiments, vous bougez la chaise un tout petit peu parce que là, il y a une association, un ancrage. Bon, la personne va chercher une scène. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai parmi des choses, et là j'ai fait la mise en contexte. Donc il y a quand même une mise en route où je devais t'expliquer ce qui s'est passé.
Là tu étais droite et...
Et c'est ok, mais une fois que je suis rentrée dans le problème, alors qu'est-ce que vous avez vu qui vous a fait penser que j'ai changé d'état?
Tu as changé de posture du corps, c'est-à-dire de droite décollée du dossier, tu t'es appuyée contre le dossier, tu t'es affaissée.
Ok, ça c'est une chose. Deuxième chose.
Le ton baissé,
oui. Le ton baissé, quoi d'autre?
La couleur, comme tu dis. La couleur.
Les rides.
Les mouvements des
mouvements des yeux.
Ok, ça c'est trois.
Les doigts.
Respiration changée comment?
Elle a été plus rapide.
Plus rapide. Et toi, tu as dit quelle couleur?
Oui, il y a eu un... Ah oui, moi aussi j'ai
vu. Tu as resté avec ça.
Oui, tu as marqué.
Après que
tu as
fini de parler,
exactement.
Et puis il faut reprendre la dernière fois.
Oui. C'est assez visible finalement, n'est-ce pas? Ok, bon. Bon, ça c'est une démonstration de feelings. Feelings. Oui, voilà, sentiment. Alors, est-ce que tu pourrais me reposer la question? Je fais une démonstration d'un autre des trois schémas, d'accord? Ok, vas-y.
Donc, Shirley, parle-moi d'un projet de travail qui t'a causé de la difficulté.
Qui m'a causé la difficulté. Il y avait cette histoire de cette banque. Et j'ai fait une journée de formation. Et justement, après, j'ai su qu'ils n'étaient pas contents de ce que j'ai fait en formation, hein, franchement. C'était un choc d'entendre que ce que j'ai cru voir dans la salle de cours, c'était pas ça du tout. C'est comme si c'était deux salles de cours différentes et que le groupe, je le connaissais pas. Bon, je savais qu'il y avait une participante qui était pas contente d'être là, mais j'avais pas vraiment l'idée que ça allait pas bien. Alors j'ai essayé de voir cette madame et voyons. Je l'ai appelée trois fois, elle m'a pas retourné l'appel. Alors finalement, j'ai dû continuer parce qu'il n'y a rien à faire. J'ai pas pu résoudre cette situation. Et je trouve quand même que c'est inacceptable que tu appelles quelqu'un pour résoudre son problème qu'elle a avec quelque chose et elle retourne pas l'appel quand même. Alors j'ai réussi ou pas?
T'es rentrée et t'es sortie.
Alors, c'est quelqu'un avec un schéma sentiment qui essaie de faire choix, ok? Soyons clairs.
Non, mais elle a vu ta taper sur la table.
Mais oui, que ça me dérange toujours pas. Ok, ok.
Tu sais à quoi je pense quand tu dis comment rendre fou un proactif?
Bah oui, tu as pensé à ça, voilà. J'ai essayé de résoudre un problème et voilà. Voilà. Mais j'ai quand même eu ma vengeance, mais je vous le dirai après. Bon, Alors, qu'est-ce que vous avez vu qui pourrait être choix en termes d'observation et non pas d'interprétation?
L'avancée du corps.
L'avancée du corps.
Sortir du problème. Voilà. Tenter de sortir du problème.
Donc la voix a été baissée au moment donné, elle est remontée. Ouais.
Ok. Sur la table, t'as dit, bon, alors, j'essaie de lui parler.
Son de voix, c'était plus.
Comme ça l'est normalement. Ok. Donc ça a changé. Ok. Et quand j'étais dans l'émotion, je faisais moins de gestes, c'est ça?
Oui.
Ok. Bon, alors.
C'était les micros, hein.
Et les épaules, hein. La les position épaules, des épaules.
Ah bon, ça, j'étais pas du tout consciente.
Excuse-moi, mais moi, je vois que tu te ratatines.
Je me ratatine, je me rends encore plus petite que d'habitude. Ok, bon, voilà. Ok, bon, je change encore de place, juste pour changer un peu. Ok, alors, tu me reposes la question, je fais le troisième.
Donc, Shirley, veux-tu bien nous parler d'un projet de travail qui t'a causé de la difficulté,
s'il te plaît? Ah oui, cette histoire de banque. Alors, tu fais ce que tu peux faire. Lorsque les gens sont contents, ils sont contents. Lorsqu'ils sont pas contents, bon, parfois, il n'y a rien à faire. Alors, j'ai fait cette prestation. J'ai su par la suite que la cliente n'était pas contente et c'était un problème. Alors, j'ai essayé d'appeler. J'ai fait mon possible pour appeler la bonne femme et puis elle n'a pas voulu. Et bon, voilà, il n'y a rien à faire, ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu résoudre le problème qu'elle avait avec ce que j'avais fait.
Droite.
Convaincante?
Non, oui.
Il y a Jean-Guillaume qui dit non. Tu m'as pas eu. Et c'est pas parce qu'une personne fait beaucoup de gestes, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est émotive. C'est par rapport à ce qu'elle fait. Ok. Par rapport à ce qu'elle.
Dans le rire, il n'y a pas d'émotion, on le sent. C'est une histoire. C'est une histoire. Je suis détachée de ça.
Au niveau de la voix, j'ai l'impression que dans le dernier, la voix était plus légère, un petit peu comme s'il n'y avait pas de chant.
Comparé à la manière que je parle d'habitude.
Oui. Voilà, le ton de voix est plus grave.
Ok. Plus haut, oui. Plus aigu, oui. Ok.
Et les yeux. Plus dynamiques aussi.
Ok.
Les yeux, l'histoire.
Qu'est-ce que.
Un peu plus ouvert.
Tu vois la gorge?
Et l'aspiration.
Ok. Et qu'est-ce que tu observes?
C'est vraiment une.
Vous voulez savoir la fin de l'histoire?
Oui, mais non.
Et alors, bon, il n'y avait rien à faire à ce moment-là, et bon, la personne n'a pas voulu payer, et bon, ça a mal tourné. Heureusement, j'ai pas perdu ma réputation avec la société de formation, mais je me suis rendu compte, bon, j'ai passé quand même pas mal de temps dans l'émotion en disant, mais comment est-ce que j'ai pu manquer des choses que j'aurais dû manquer s'ils n'étaient pas contentes, et s'ils n'étaient pas contents, et comment est-ce que... Qu'est-ce que je peux pouvoir faire étant donné qu'elle ne veut pas résoudre le problème? Alors, pendant un certain temps, j'ai été là-dedans, comme vous pouvez maintenant imaginer. Mais quand je me suis mis en recul par rapport à ça, je me suis dit, mais Shirley, réfléchis bien à ce que tu as fait. Tu sais, il y a des pour tous ceux qui sont formateurs ou même dans toutes les professions, il y a des journées où tu fais ça ambulant. Tu es dormi ambulant. Alors, tu sais, en revoyant ce que j'avais fait cette journée-là, j'ai fait mes routines habituelles. Et je me suis rendu compte que j'avais prêté beaucoup moins attention à les gens dans le groupe. Et j'ai fait mes routines que je sais qui marchent à tous les coups. Et tu sais, les gens sentent quelque chose. Donc, j'étais fatiguée, j'avais toutes les raisons pourquoi j'ai fait ça. Et je me suis rendu compte à la fin que les gens ont senti que j'étais pas vraiment là. J'ai fait mon truc, c'était ma salade habituelle et voilà. Et que ça passe pas. Donc, c'est un grand apprentissage en fin de compte. Ça m'a pris du temps pour en arriver là parce que bien sûr, quand il y a quelque chose qui va pas, quelle est la première chose qu'on fait? C'est les autres. C'est pour ça qu'on a, comme je disais l'autre jour, l'autre soir, on a une poste de gestion dans ma société qui est toujours ouverte. On cherche du monde à combler cette poste. Et c'est une poste de direction. D'ailleurs, c'est le bouc émissaire en chef. On a besoin de quelqu'un dans notre société pour qui c'est la faute. Ça va libérer tout le monde. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va dire, mais c'est le bouc émissaire en chef qui est chargé de ça. Et c'est très bien rémunéré, mais on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui est d'accord pour accepter ce poste. Ben voilà, alors, ça fait des années qu'on cherche pour notre bouc émissaire en chef. Alors, finalement, c'est moi. Ben oui, j'ai analysé le profil. Bon, voilà. Alors, fin de l'histoire. 6 mois plus tard, j'étais en train de donner un cours public de communication dans le centre de formation de l'autre boîte. Et il y a une personne, mon contact dans la boîte me dit, tiens, j'ai eu un coup d'appel intéressant. Ah, je dis, c'est quoi? tu te souviens de la banque? Elle me dit, well, yes. Et là, elle dit, c'est intéressant parce que la cliente qui avait refusé de payer a téléphoné et elle voulait assister à ton cours public. Alors, je lui ai posé la question, étant donné que vous n'étiez pas content de ce qu'elle avait fait la dernière fois, et que, jusqu'au point de refuser de payer, pourquoi veux-tu assister au cours de Shelley? Alors, elle a dit, mais j'aime bien Shelley, je trouve qu'elle fait du bon travail. Alors, mon contact dans la société de formation, c'est quand même une personne que je respecte et que j'aime beaucoup. Elle a dit, mais pensez-vous, nous, notre travail ici dans notre société de formation, c'est d'assurer que nos formateurs soient en bon état lorsqu'ils vont faire la formation. À votre avis, si elle vous voit entrer dans la salle de cours, ça va lui faire quoi après tout ça? Donc, on ne lui a pas laissé entrer dans le cours. Yes! Alors, j'ai eu ma vengeance, voilà. C'est ça. Non, elle n'a pas payé la formation.
Elle a pas payé. Vous avez trouvé une bonne excuse pour ne pas payer.
Non, elle n'a pas payé la formation que j'avais faite dans la banque. Ouais, ouais. Mais elle voulait quand même venir et on lui a dit non. Ouais,
mais elle n'a pas payé.
Quoi. Bien fait pour sa gueule. Bon, voilà. Qui n'a dit que la vengeance n'est pas... Voilà. Voilà. Alors, maintenant, c'est votre tour, messieurs, dames. Et donc, vous allez vous mettre par groupe de deux et vous poser la question. Dans le contexte du travail, parlez-moi d'une situation dans votre travail qui vous a causé de la difficulté. Un 3 ou un 4, d'accord? Et un 3 ou un 4 sur une échelle de 10. Voilà, ok? Alors, vous faites par groupe de deux et prenez 5 minutes chacun. Ok, s'il vous plaît. Alors, on a ces trois schémas de la réponse sous stress, n'est-ce pas? Alors, ça sert à quoi savoir tout ça, justement? Et qu'est-ce que ça veut dire si on a un schéma dans un contexte, etc.? Si, mettons par exemple, vous avez quelqu'un qui a un schéma sentiment. C'est quoi l'avantage d'avoir un schéma sentiment? Ah!
On est humain.
On est humain, oui, j'espère que tous les schémas portent fruit pour les êtres humains. Mais bon, c'est que quand vous avez un schéma de sentiment, ça veut dire que vous avez beaucoup d'émotions. Et ça veut dire que vous avez de la passion dans ce contexte-là. Vous allez peut-être avoir des hauts et des bas, mais vous êtes engagé émotionnellement. Si vous avez quelqu'un qui a une combinaison, par exemple, d'options plus sentiments dans un même contexte, c'est très artistique. Souvent, les poètes et les gens en art visuel ont ce schéma-là. Parce que c'est l'art, c'est quoi? C'est souvent la communication des émotions, n'est-ce pas? Donc, c'est très créateur comme profil. Le désavantage, bien sûr, c'est que on est un peu comme une balle de ping-pong. Et donc, les compétences en PNL, ça aide à gérer ses propres émotions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et aussi, pour le recrutement, c'est assez important parce que si c'est un job avec beaucoup de stress, c'est pas quelqu'un de sentiment que vous voulez dans ce poste-là parce qu'il va finir avec des journées de maladie, etc. et des maladies liées au stress. S'il n'apprend pas à gérer ses émotions et son état émotionnel. Donc c'est pas déterminé, une personne peut apprendre à gérer ça, bien sûr. Quelqu'un qui a et l'autre chose aussi, c'est parfois des gens ayant un schéma sentiment, s'ils n'ont pas de bonnes frontières entre lui-même et les autres, si quelqu'un d'autre a une difficulté, lui aussi le vit aussi. Nous connaissons tous du monde qui porte les problèmes du monde sur leurs épaules. Alors, je me souviens dans mon passé que j'ai dit à mon petit ami que s'il n'arrêtait pas de lutter avec le monde en entier, moi je n'enlèverais pas le poids du monde de mes épaules. Donc ça n'a pas duré longtemps parce que moi je prends la responsabilité de tout le monde. Alors j'avais le poids du monde sur mes épaules. Lui luttait contre tout le monde. Alors il n'a pas lâché à lutter contre tout le monde et moi j'ai pas relâché le poids de la responsabilité de la planète entière. Donc ça n'a pas duré longtemps cette relation-là. Je dois faire attention, je suis en train d'enregistrer, je me révèle un peu trop là. Alors là, sorry. I was kidding. Je blaguais. Eh bien, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, parfois s'il n'a pas créé de frontières, il va apporter les émotions des autres aussi. Quelqu'un qui a le schéma choix, c'est très bien pour l'empathie. Parce qu'on a des émotions, donc on comprend que l'autre, il peut en avoir. Mais si on doit aller travailler quand même, À ce moment-là, c'est très bien. Donc, gestion, pour la gestion du des personnes, c'est très bien. Bon, j'ai une empathie pour toi, mais en même temps, ça m'empêche pas que, écoute, on est là pour faire quelque chose quand même. Voyez-vous? Quelqu'un qui a plutôt analyse n'entre pas dans ses émotions et a du mal à reconnaître que les autres ont des émotions. Donc, ce sont les personnes qui vont rester calmes dans les situations stressantes, mais ils vont pas nécessairement avoir une empathie pour ceux qui ont des problèmes. C'est le genre de personne, par exemple, qui va te dire « Écoute, je crois que tu exagères. Tu fais un gros montagne alors que c'est trois fois rien. » Qui ne comprend pas que les autres peuvent s'emporter sur quelque chose. Vous ne connaissez pas quelqu'un comme ça, peut-être? Si? Parce que justement, il ne ressent pas d'émotion dans ce genre de situation-là, donc il ne comprend pas que les autres peuvent le faire. Mais lorsque vous avez besoin de quelqu'un qui a le sang-froid, comme on dit, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un avec ce schéma-là, dans ce contexte-là, que vous cherchez. Et si vous êtes médiateur ou conseiller en famille ou coach, vous pouvez voir dans les couples, par exemple, où la différence de schéma peut poser des problèmes. Et une chose que vous pouvez faire, c'est au moins, c'est expliquer les différences les uns aux autres. Pour qu'au moins ils sachent d'où il vient. Alors, quand elle dit qu'elle tel ou tel problème lui cause des ennuis, ça veut dire que pour elle, c'est un problème qui lui prend et que c'est difficile pour elle. Alors, quand lui dit « t'as qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela », c'est parce qu'il rentre dans la résolution de problèmes, parce qu'il veut voir les étapes, etc. Et pour lui, c'est pas une question d'émotion, par exemple, ou dans le sens contraire. Donc, c'est un genre d'interprétation à faire. Voyez-vous? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur la réponse sous stress?
Par rapport à ce comportement que tu disais en termes d'application par rapport à la problématique de couple, ce qui est caractéristique dans le fonctionnement chez l'homme et chez la femme, c'est que lorsqu'une femme parle d'un problème à son homme, l'homme croit toujours qu'elle lui demande des solutions, alors qu'elle demande juste à être écoutée. Et si dans un couple, l'homme apprend que sa femme elle a juste besoin d'être entendue sans proposer de solution, il y a plein de choses qui se réorganisent toutes seules, puisque du coup, le mec, il vit plus facilement, puisqu'il se sent plus obligé de trouver des solutions,
voilà.
Elle se sent entendue. Et il me semble qu'on est...
Oui, on est là-dedans. Oui, oui. Et c'est vrai, il y a des schémas dans le Lab Pofa qui sont inculqués de manière culturelle. Et il y a une culture féminine, il y a une culture masculine. Et il y a des comportements associés avec ça. Et ça, c'est un bon exemple de ça. Et il faut se souvenir aussi que l'être humain est incapable de faire ces deux choses à la fois. Être émotionnel et être logique en même temps, ça on ne sait pas faire. Alors, si vous avez quelqu'un dans un état émotionnel, qu'est-ce que vous faites d'abord? Résoudre le problème ou traiter l'émotion?
Traiter l'émotion.
Voilà, on traite l'émotion parce que, et on n'attend pas que la personne sait résoudre un problème alors qu'elle est dans un état. D'accord? Parce que ce n'est pas logique. Et c'est parce qu'on est incapable de faire ces deux choses en même temps, c'est tout. Pardon?
C'est scientifique.
Et c'est scientifiquement prouvé d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre qui le dit.
Je trouve que ce processus est très bien illustré dans la phobie par exemple. La personne qui a la phobie des araignées, elle sait que l'araignée ne va pas la bouffer.
Oui.
Seulement c'est plus fort qu'elle et elle est
au plafond. Quoi. Donc le problème n'est pas au niveau de la logique. Voilà. C'est ça. Eh bien, alors où est-ce qu'on est maintenant? Si vous prenez votre manuel, vous allez voir à la fin de la manuel, il y a des fiches de travail, comme on dit, qui réunissent l'ensemble du travail. Vous voyez, ça c'est l'ensemble. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est une démonstration assez rapide de l'ensemble de profils. Parce que là, vous avez eu l'occasion de pratiquer la première moitié, c'est-à-dire les schémas de motivation. Et là, on va faire rapidement les schémas de motivation et les schémas de travail. À la page 37, il y a juste les schémas de travail avec les indicateurs. Et la page suivante, c'est l'ensemble du profil. Donc pour ça, je vais demander à Bernadette si tu veux venir et je vais faire le profil de Bernadette dans le cadre de son travail. Et après, vous allez avoir l'occasion vous-même de le faire. Ok, tout le monde, vous vous mettez où vous pouvez bien voir et Bernadette et moi-même et que vous entendez bien, etc. Merci bien, c'est gentil. Peux-tu nous dire quel type de qu'est-ce que tu fais comme travail?
Alors, je vais prendre formatrice de formateur.
Formatrice de. Ok, ce contexte-là. Alors. Ok. Donc, quand tu fais. Donc, contexte, c'est formation de formateur ou formatrice ?
Oui.
Qu'est-ce que tu préfères ?
Formatrice, c'est bien.
Formatrice, ok, de formateur. Et là, encore une fois, je fais mon mieux de bien prendre le contexte tel que la personne elle-même, elle le dit. Et je le spécifie. Ok ? Ok, Bernadette, et là, vous vous souvenez, vous allez cocher proactif et réactif avant de commencer. Et il y a deux autres choses qui n'ont pas de questions. En bas, juste, c'est le champ, c'est le spécifique général au début des caractéristiques de travail. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je note l'heure de commencer, parce que comme ça, je saurai au moins à peu près combien de temps ça prend pour faire... le profil, parce que si ça prend 40 minutes, c'est pas général. Vous voyez?
C'est plutôt spécifique.
Okay. Et direction de l'attention, vous allez voir, je vais le tester à un moment donné. Donc, c'est bien que vous regardez et que vous écoutez en même temps, parce que j'avertis pas à l'avance. Ok? Je vous avertis que je n'avertis pas. On parle de ton travail en tant que formatrice et formateur, d'accord?
Oui.
Et qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail de formatrice et formateur?
C'est que c'est à chaque fois différent, même si c'est toujours pareil.
À chaque fois, que ouais. Ça soit chaque fois différent, même si c'est...
Bah oui, c'est de toute manière, le contenu est toujours le même. C'est toujours l'animation de formation, la rédaction des objectifs, etc., etc. Ou en ingénierie, un autre contenu, mais... Bon, donc le contenu diffère finalement peu, mais la manière de le faire passer et ce qui se passe dans le groupe est à chaque fois différent.
Ok. Donc, ce qui est important pour toi, c'est qu'à chaque fois, à la manière que tu le fais, oui. C'est qu'à chaque fois qu'il soit différent.
Voilà, et je prends un grand plaisir à le faire.
Ok.
Voilà, c'est-à-dire que pour moi, la formation, elle est réussie si à la fois j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette formation et si... J'ai vu les manifestations du plaisir chez les participants, enfin s'ils le manifestent.
Ok, voilà, s'ils manifestent le plaisir.
Le plaisir le plaisir de d'avoir avancé, d'avoir évolué, d'avoir, je sais pas, enfin, okay. D'avoir bougé quoi.
D'avoir bougé, ok. D'avoir bougé. Donc, pourquoi, pour toi dans ton travail en tant que formatrice et formateur, pourquoi c'est important qu'ils manifestent le plaisir d'avoir bougé?
Eh bien, parce que je pense qu'on peut faire de la formation uniquement, enfin, on peut être efficace en formation uniquement si les personnes sont dans une attitude positive pour apprendre. Et qu'on peut être dans une attitude positive pour apprendre que lorsqu'on est bien et détendu et que c'est agréable. En
fait, hein. Et pourquoi dans le contexte de ton travail comme formatrice et formateur, pourquoi cela c'est important?
Parce qu'ils sont amenés, eux, à être les futurs formateurs je ne sais pas, moi, anglais peut-être.
De
avoir besoin. Donc.
Ok. Et pourquoi ça, c'est important, le fait qu'ils vont être formateurs eux-mêmes?
Eh bien, c'est-à-dire que le fait qu'ils m'aient comme formateur de formateurs, quelque part, je suis un petit peu un modèle.
Ok.
Et que si je rate cette étape-là... c'est pas les 12 personnes que j'ai devant moi, c'est les 12 multipliées par 12, etc., etc., qui vont,
d'accord.
Qui vont trouver des choses pas rigolotes. Voilà.
Et si, je suis en train de réfléchir à ce que tu dis là, et en tant que formatrice et formateur, comment sais-tu que tu as fait du bon travail là-dedans?
Comment je sais que j'ai fait du bon travail? Le jour où ils ont oublié tout ce que je leur ai dit, et qu'ils sont capables de faire sans réfléchir à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont intégré le fait qu'on travaille sur des objectifs, le fait qu'on mélange les méthodes, etc. Ils ne réfléchissent plus à ça. Ils le font et voilà, quoi, ils font volontiers.
Et, ok. Et,
c'est intégré, quoi.
Voilà. C'est intégré, ok. Et pourquoi as-tu choisi ce travail de formatrice, de formateur, finalement, après tout?
Alors, la question posée comme ça, je vais te dire, parce qu'on me l'a proposé.
On te l'a proposé,
proposé. Voilà, et j'ai accepté très très volontiers. C'est pas moi qui me suis dit, je vais faire ce métier-là.
Uh-huh.
Hein, voilà, c'est-à-dire, de toute petite, je ne me suis pas dit, je vais faire formatrice de formateur. Non. Les choses ont fait que.
Ok.
Voilà. Et oui, ça s'est passé comme ça. On me l'a proposé et j'ai dit oui, c'est un super challenge. Ça me plaît, c'est un contenu qui me plaît. J'y vais, je fonce.
Ok. Et je suis en train de penser à ton travail de formatrice et formateur.
Oui.
Quelle est la relation entre la manière ou le travail que tu fais en tant que formatrice et formateur cette année et l'année dernière?
La relation?
Oui.
La troisième fois, mais je m'y fais pas ce mot. Okay.
Thank you.
Voilà. Eh ben c'est pas le même. Hein. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est à la fois la même chose, mais à la fois pas la même chose.
Ah oui, je vois.
C'est clair.
Je comprends.
Tu comprends.
Oui, voilà. Ok. Eh bien, peux-tu me parler d'une situation en tant que formatrice de formateur?
Oui.
Qui t'a causé de la difficulté?
Alors, dans une situation de formation de formateur, j'ai eu, oui, un groupe sur lequel j'ai eu une difficulté.
Tu as eu une difficulté?
Oui.
Tu peux m'en parler un peu?
C'était un stagiaire qui s'était planté pile là-devant.
Ah oui, c'était dans la position de confrontation, voilà. Ok, oui.
Et qui m'a cassé les pieds, enfin je me les suis laissé casser aussi, peut-être, je sais pas, hein, mais... pendant toute l'année. C'était... Voilà.
Pendant toute l'année?
Ah, toute l'année, oui, oui. Ça a duré 9 mois.
D'accord.
9 mois. Il était... comment on peut dire ça? Il souhaitait être le leader du groupe. Il a failli faire partir 6 personnes.
Mm-hmm.
Donc, j'ai dit, attends, là, on n'a pas suffisamment de stagiaires pour que tu puisses...
Ben oui, voilà.
Les 6. Donc, il va falloir se calmer. Voilà, mais jusqu'à la fin, il a développé des comportements qui pour moi étaient difficiles à gérer.
Mmh.
Voilà, parce qu'il a été un élément qui m'a obligée à me bouger, à pas être la gentille, à dire des choses pas forcément agréables, etc. Quoi.
Voilà. Ok.
Oui.
Right.
Là, ça c'est. Oh, ça n'a pas été...
Ça n'a pas été difficile dans le temps. Ça n'a pas été facile dans le temps.
Non, ça m'a vraiment...
Okay.
Ça fait les pieds. Oui.
Tu peux bouger juste un petit peu plus, là? Ok, merci.
Tu veux que je ramène?
S'il te plaît. Je suis subtile, n'est-ce pas?
On n'a rien vu. Tu veux que
Oui, tu n'as pas besoin d'avoir la subtilité. L'autre n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Tu mets les choses en l'air. Bon, j'ai lancé un crayon et merci de l'avoir ramassé. C'est gentil de ta part. Et ça m'a aidé dans le travail que je suis en train de faire. Tu comprends. Mais, non, je l'ai fait exprès. Ça n'a pas tombé pile, c'est j'ai fait exprès. Il ne s'agit pas de la chance.
Eh bien, tu as besoin d'un crayon aussi pour...
Oui. Ou un crayon, tu as besoin de quelque chose, je peux aussi lâcher. Vous voyez, excusez-moi. Tu fais tout et n'importe quoi, tout est un test. Vous voyez, c'est une bonne démonstration. Hein. Merci beaucoup. Eh bien, oui, j'ai pas besoin de faire une troisième fois. Je pense que les conclusions sont ce qu'elles sont. Qu'est-ce que tu dis? Nombre d'exemples trois fois. Alors, merci. Ok, on part toujours de ton travail de formatrice de formation. Et peux-tu me parler d'une situation où tu as eu vraiment un grand plaisir à le faire?
Ah ben oui. Alors là, il y a tellement d'exemples que... Alors, pour en trouver un... Oui.
Mmh. Ok. Bon. Oui. Ok. Racontez-moi.
C'est un moment où j'ai fait une formation à des personnes qui n'avaient jamais fait de formation de formateur. Jamais.
Ah.
Voilà. Donc elles étaient toutes neuves sur le sujet et comme je leur ai fait faire des choses qui étaient complètement hors des clous entre guillemets par rapport à
hors des clous.
Hors des clous et par rapport à ce qu'elles avaient l'habitude de faire, elles ont été un petit peu secouées. Et et après elles sont, elles ont rentré dans le jeu, et après ça a été génial, quoi.
Ah bon,
hein, voilà.
Et pourquoi ça t'a plu, au juste?
Eh bien parce que j'ai vu que il y avait chez eux des déclics qui s'étaient faits, hein, c'est-à-dire qu'ils faisaient des relations entre ce qu'on avait fait et ce qu'ils vivaient eux avec avec leurs stagiaires, en disant ah ben oui, mais alors dans cette situation là j'aurais pu faire ça et ça, voilà.
D'accord, donc
ça je pourrais l'utiliser. Il y en a aussi qui ont dit ah non mais ça alors vraiment c'est n'importe quoi, là ça marche avec moi, mais avec les autres ça ne marchera pas.
Ah donc il y a eu des gens sceptiques aussi.
Ah, oui.
Mais tu as eu un grand plaisir parce que ils ont eu des déclics et ils ont pu voir comment utiliser, comment
c'est
faire. Ok, c'est bien. Et on parle toujours de ton travail comme formatrice de formateurs. Qu'est-ce qui serait pour toi un bon moyen d'augmenter ta réussite là-dedans?
Par rapport à ça?
Oui. Oui, oui.
Alors, d'augmenter ma réussite dans la formation de formateurs, je ne sais pas, ça dépend si je place ma réussite en termes de résultats de formateurs.
Mettons par exemple,
voilà.
Mettons, on prend ça. Ça, je fais attention là, est-ce que Bernadette fait, a besoin d'un mini contexte pour pouvoir répondre.
Oui, parce que là, j'ai déjà 80.
Parce qu'on voit, il y a plusieurs contextes. Donc, prenons par exemple résultats.
Mais si je prends ça, je vais avoir du mal à augmenter parce que j'ai déjà 99%.
Alors là, on prend autre chose.
Donc, il faut que je prenne autre chose.
Okay.
Alors, à vendre. Voilà.
Ok, à vendre. Alors, qu'est-ce qui sera pour toi un bon moyen d'augmenter ta réussite en tant que vendeur de formation
déjà,
de
formateur? Déjà, me faire connaître sur le marché en dehors du label de mon ancien organisme.
Ok.
Voilà.
Et qu'est-ce qui sera un bon moyen pour quelqu'un d'autre dans la même situation, dans la vente de formation de formateur aussi? Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que...
Eh bien, quelqu'un d'autre, il fera... je ne sais pas du tout ce qu'il fera, mais... Il peut soit faire ça, soit faire d'autres choses. Là, par contre, j'ai pas d'idée préconçue sur ce que lui pourrait faire pour réussir, puisque je ne sais pas déjà sur... Alors, sur la vente, je ne sais pas, ça sera en fonction de lui. Moi, j'ai déjà imaginé plusieurs stratégies de vente de formation de formateurs, mais qui me sont personnelles parce que j'ai déjà un réseau, parce que je suis déjà connue d'une certaine manière, mais... Voilà, après, tu vois,
Ok.
Voilà, après, ça va dépendre d'eux. Hein. Il doit forcément y en avoir, mais je ne les connais pas.
Ok.
On va prendre leur point fort à eux.
Ok. Et en tant que formatrice de formateurs, lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre dans le même métier, comment sais-tu qu'un collègue dans le même métier, comment sais-tu que ce collègue est performant dans son travail?
Alors, si je fais référence à ce que j'ai déjà vécu, je sais quand j'ai travaillé avec lui.
Quand tu as travaillé avec lui, ok.
Voilà. Si j'ai réalisé quelque chose avec cette personne, je vais me dire, bah oui, là, ça va, quoi. Hein.
Alors, combien de
fois... manière de travailler.
D'accord. Combien de fois dois-tu travailler avec lui pour être convaincu qu'il est bon dans son travail?
C'est pas en nombre de fois.
Ah bon?
Non. C'est plutôt en durée, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui est une globalité.
Mm-hmm.
Pour moi, hein, pour
globalité.
Savoir si quelqu'un est compétent dans le métier que je fais, il faut que je le vois faire plusieurs activités, donc forcément c'est dans la durée.
Oh, plusieurs activités?
Voilà.
Mais combien, par exemple?
Qui se complètent l'une l'autre, il n'y a pas de nombre. C'est un ensemble d'étapes qui vont concourir à quelque chose. Si c'est pour créer un plan de formation, eh bien, ce sera de l'analyse à la rédaction du plan de formation. Si c'est un support de cours, ça sera de la recherche de documents à
donc, la publication. Donc, une chose au complet dans toutes ces phases, c'est ça?
Oui.
Ok. Ok, merci. 4 et 12. Alors, je fais la mathématique pour savoir combien de minutes, tu sais. Mais moi, j'ai estimé que tu es au milieu sur le spécifique général. Et 10 minutes, 22 minutes. Ouais, ça veut dire que c'est pas général. Quelqu'un qui a un schéma général, ça prend 10 minutes à peine.
D'accord.
Et là, je dirais que tu es plus vers le milieu, là, en spécificité. Est-ce qu'il y a des questions sur la manière que je me suis prise avec Bernadette? sur des choses un peu particulières. Vous avez vu que lorsque je fais quelques commentaires et vous posez des questions aussi, que lors de la question sur la réponse au stress, après je l'ai fait bouger sa chaise. Savez-vous pourquoi? Parce que je voulais vraiment changer le sujet. C'est à ce moment-là que j'ai lâché mon crayon et que j'ai fait d'autres choses de l'ordre ludique. D'accord? Parce que on va passer à quelque chose de plus positif maintenant. D'ailleurs, ce que j'ai marqué pour réponse au stress et que ça reste à tester tout ça, mais mon hypothèse, c'est que j'ai marqué un point sentiment, deux points chose. Parce qu'elle a quand même appris à s'en sortir. Ça l'a appris, mais elle savait passer outre. Mais il y avait une partie du sentiment qui restait à propos de ce contexte-là. Et, y a-t-il d'autres questions ou commentaires sur des choses que j'aurais peut-être faites? Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait mon mieux pour que ça soit très, très informel, conversationnel.
Oui.
Okay. Et je n'ai pas passé tout mon temps à regarder la personne non plus. Parce que c'est un peu gênant quand tu fais ça. Donc c'est un peu, on est informel, etc. Oui, Laetitia?
En fait, par rapport au contenu, à la dernière question, comment savez-vous que quelqu'un...
Comment savez-vous que quelqu'un est performant, oui?
En fait, c'est pour déterminer le voir, entendre, lire ou faire.
Ah oui, elle devait travailler avec, ça c'est faire. Voilà, et c'est une forme de durée, c'est un truc au complet, du début à la fin. Donc on pourrait dire que c'est une durée, oui. Donner deux exemples de ça. Tu as donné deux exemples de ça, alors je suis tentée à tester deux exemples aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est dans le sens, une chose au complet. D'accord? Autre commentaire ou question? Ça vous a paru comment, cet entretien?
Facile.
Facile pour toi?
Ah oui.
Ok. Confortable?
Agréable et confortable, oui.
Ok. Qu'est-ce que ça avait l'air de quoi depuis l'extérieur? Voilà, une conversation?
Ça paraissait très
bien. Et ça coulait bien. Et vous savez, vous pouvez faire avec une fiche de travail comme ça, vous demandez la permission à la personne, et vous cochez, vous écoutez, etc. D'accord. Bien. Tu peux parler un peu plus fort.
La fameuse question, quelle est la relation entre...
Et vous voyez la réaction que même quand la personne comprend ce que tu cherches, et qu'elle sait ce que ça veut dire le mot relation, dans le contexte, ça n'avait pas de sens, hein. Ah, j'ai une question pour vous dans l'autre.
Ben, je dis que c'est la troisième fois et je comprends toujours rien, quoi, voilà.
Alors, on va changer de contexte juste pour s'amuser, juste un instant. Oui. Bernadette, quelle est la relation entre l'endroit où tu vis maintenant et le dernier endroit où tu vivais, la maison où tu es actuellement et celle d'avant? Quelle est la relation?
C'est la même chose.
C'est la même chose, ok. Même. Tu sais la dernière paire de chaussures que tu as achetées? Non. Ok, j'essaie de chercher autre chose. Okay.
La voiture.
Ah oui, la voiture que tu as maintenant.
Oui.
Quelle est la relation entre la voiture que tu as maintenant et celle d'avant?
C'était la même.
Oh, mince. Donc c'est un thème peut-être que tu as là, cette histoire de différence.
C'est un thème?
Un thème de... Tu cherches souvent la différence.
Ah oui, c'est
dans plusieurs contextes.
Ah oui, oui,
parce que j'essaie de trouver un contexte dans lequel tu as peut-être pareil avec exception. Ah! Dans ton couple,
oui.
Quelle est la relation entre la façon que tu vis ton couple cette année et l'année dernière?
Non, c'est pas la même chose du tout, non. Non, non, ça sera pas la même chose demain non plus, donc.
Alors, je vois, on a tapé un thème de un peu de ton existence là, la différence, c'est ça?
Oui.
Tu as un chat ou un chien?
Non. Non, j'ai des poissons rouges. Mais...
Et quelle est la relation entre le premier poisson rouge et le deuxième?
Il y en a un, c'est ma fille qui l'a choisi, l'autre c'est moi. Et alors depuis, elle ne s'occupe plus du...
C'est toi qui t'en occupes, ok. Moi, j'ai essayé de la faire dire qu'ils étaient à peu près pareils, mais là encore, ça n'a pas marché. Et donc, je renonce, ok, ça y est, je renonce. Bon, d'accord. Je voulais savoir s'il y avait un endroit où on pouvait trouver du pareil avec exception ou du pareil. J'ai pas réussi à le trouver. Alors je m'amuse là, mais ça sert strictement à rien. Bon, il y a des amis. J'ai fait ça. Oh, ben oui, j'ai fait ça pour avoir grand plaisir à le faire. C'est pour ça que je l'ai fait. Ah, ok. Oui,
d'accord, ça y est.
On avait pas répondu tout à l'heure par rapport au travail. Pareil.
Elle a dit le contenu c'est pareil mais à chaque fois c'est différent. Voilà. Ah oui, justement, tu me rappelles ce que je voulais vous demander. Vous remarquez que la toute première fois où vous commencez vos hypothèses en utilisant notre méthode rigoureuse, empirique et scientifique, c'est dès qu'on pose la question qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce que tu veux. Là, on entend à chaque fois c'est différent. Le contenu c'est pareil mais à chaque fois la manière que je fais c'est différent. Donc okay, déjà, on commence à faire des hypothèses sur les schémas, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc c'est la première hypothèse que je fais, c'est dans les critères. Ok, merci beaucoup de Bernadette.
Merci.
Alors nous avons, je vais vous donner une autre fiche de travail. Prenez quelqu'un, là on va, ce qu'on va faire c'est qu'on va donner un temps limité. Vous avez 15 minutes chacun, donc je vais vous demander, même ceux qui sont spécifiques, d'essayer de raccourcir un peu pour que vous puissiez au moins faire le premier jet de l'ensemble du profil. Je pense que, et la raison pour laquelle j'aimerais que vous le faites vous-même, c'est que c'est pour que vous soyez plus à l'aise en le faisant, en posant les questions, en écoutant les réponses. Parce que parmi vous, il y aurait quelques-uns qui ont besoin de faire ça un couple de fois pour sentir à l'aise avec ça. Ça prendrait une durée de 15 minutes pour le faire et ça vous aidera justement à avoir suffisamment de confiance pour vous servir de l'outil ailleurs. D'accord? Et donc, prenez une autre fiche de travail, quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore travaillé. Vous pouvez choisir, par exemple, je vous donne option, là, de changer de contexte si ça vous chante. Contexte de vacances, contexte d'études, contexte de famille, comme vous voulez. Donc, choisissez un contexte et là, vous aurez une occasion pour le faire. Vous venez de terminer d'avoir fait un profil de l'ensemble. Alors, vos impressions d'avoir fait ça de faire un ensemble, le profil au complet pour la première fois, qu'est-ce que ça, c'était quoi? Comment?
Aidant.
Ça rentre. OK, oui. Autres impressions?
Contexte.
Ah oui. Est-ce que ça aide de rappeler la personne contexte? Oui, oui, oui. Et vous voyez, les gens sont créatifs, ils partent dans tous les sens, sinon. Hein.
Ouais. Puis on a changé de contexte et on a vu qu'on était...
C'était difficile.
On était différentes
du travail.
Oui. Et parfois, dans les différents contextes, il faut jongler un peu les questions, n'est-ce pas? Alors, mettons par exemple, vous avez eu le malheur... Écoutez, s'il vous plaît. Vous avez eu le malheur de choisir le contexte suivant. Votre relation avec votre conjoint. Alors, vous êtes gentiment descendant les questions et là, vous arrivez à quelle est la relation entre votre relation avec votre conjoint. Voyez, donc, choisissez de manière stratégique comment vous formulez le contexte, d'accord? Parce que demander à une victime naïve quelle est la relation entre sa relation d'aujourd'hui et de l'année dernière. Bon, alors vous, maintenant vous pouvez être un peu plus stratège. Et j'aimerais vous faire remarquer que dans la mise en page, encore, c'est marqué qu'est-ce qui est la structure de la question et qu'est-ce qui est contexte. Donc entre les parenthèses, là vous jouez avec le contexte, alors que en lettres caractère gras, c'est plus la structure de la question. C'est ça.
L'idée, c'est peut-être d'inventer les questions par rapport au contexte.
Voilà, de réfléchir à ça. Oui, voilà. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a abordé chaque schéma, chaque catégorie du schéma, vous comprenez un peu la structure, à quoi ça vise la question. Et le design des questions, c'est quand même important parce que justement, peu importe que la personne répond, ça dégage le schéma. Et donc, soyez certain de pas trop jouer avec la structure principale. Par exemple, option procédure. Pourquoi avez-vous choisi? Donc ça, c'est essentiel. Si par malheur, vous dites comment et vous choisissez, vous allez avoir une procédure. Voyez-vous, donc, ça a été, le design a été fait comme ça pour quelque chose.
Moi, quand je posais des questions, je me suis planté parce qu'on était parti sur le contexte amical. Et puis, après, je lui dis, parle-moi d'une situation au travail.
Voilà.
Alors, elle me répond au travail, gentiment et tout ça. Et à la fin, elle me dit, je t'ai trompé. Donc là, j'ai su qu'elle était autre et pas soi, quoi. Ouais. Ça m'a permis de tester.
Permis de tester autre chose, oui. Oui, parlez-moi d'une situation d'amitié, blablabla. Bla, bla. Alors là, il y a un petit. Alors je suis contente que tu aies eu cette expérience parce que tu l'as eu une fois, tu ne l'auras pas une deuxième fois, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Ah, je dois vous féliciter parce que moi je faisais un peu une écoute en passant, etc. Et je trouve que ça y est, vous l'avez. Ça prendrait encore un peu de pratique, mais il me semble que ça commence à venir. Hein. Vous avez sûrement remarqué combien c'était facile de repérer des caractéristiques de motivation. Et vous avez eu peut-être 2-3 fois à jouer avec et ça y est, c'est rentré. Ça prendrait le même genre de travail pour les caractéristiques de travail. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, ni beaucoup d'exemples de pratiques non plus. Quant aux autres choses, j'aimerais vous demander ceux qui s'intéressent. Alors là, je demande à Gilles aussi avant que je fasse ma conclusion. Ceux qui s'intéressent et qui parlent suffisamment bien de l'anglais, si ça vous intéresse de faire la formation de formateur dans la profile, l'été prochain, les dates, c'est le 4 juillet ou 16 ou 18, le vendredi, les deux vendredis après. C'est 10 jours de formation, le week-end libre, et c'est à Burlington, à 1 heure de Toronto, près de chez moi. Et donc, si ça vous intéresse et vous avez votre petit papier blanc, marquez info certification. Et là, je vais vous envoyer par email les informations sur la certification. D'accord? Ou vous, si vous avez déjà remis le papier et vous n'avez pas fait ça, donnez-moi une carte de visite où vous marquez certification. Quelque chose comme ça, et comme ça, je vais vous envoyer les informations. Mais c'est pas la seule option, parce que là, on est en train de faire un brainstorming avec Marie-Paul et Gilles, et on va vous en parler dans un instant. Mais j'ai encore quelque chose à vous dire, si vous permettez. J'étais en train de réfléchir, tu sais, parce que il s'agit pas juste de passer à l'acte tout de suite, mais quand même, on peut réfléchir, qu'il y a beaucoup d'applications au profil là. Et chacun de vous, en réfléchissant bien, vous avez quand même des applications qui vous semblent les plus pertinentes, que vous avez envie de faire tout de suite et peut-être d'autres plus tard. Mais le lab profile, ça peut servir justement à ça, à réfléchir à ce qu'on fait avant de le faire. Mais c'est pas seulement ça, parce que tu peux agir avec plus de précision et justesse aussi. On rentre dans l'action et là, on voit que ça tape juste. Parce que ça vous permettra justement d'éviter les problèmes que vous auriez peut-être eu dans le passé et aussi d'aller plus vite vers vos objectifs, n'est-ce pas? Et vous allez vous-même rendre compte de ça. Les autres vont apprécier beaucoup aussi que vous avez fait l'effort de mieux les comprendre et mieux les écouter. Et on a fait beaucoup de variétés de moyens pour le faire. On a vu des perspectives, on a vraiment exploré des options possibles. Et je vous ai donné quand même des procédures à suivre pour être rigoureusement attentive à ce qui se passe, surtout avec notre méthode empirique, rigoureuse et scientifique en deux étapes, n'est-ce pas? Et justement, ça vous permettra de maintenir de bonnes relations, de les améliorer quand vous voulez, n'est-ce pas, ou de les changer complètement. Globalement, c'est ce qu'on a fait. Et on a rentré quand même dans le détail des choses, n'est-ce pas?
Oui.
Vous me suivez là, n'est-ce pas? OK. Et c'est en observant, en testant, en voyant les comportements les uns les autres, et aussi en dedans de soi-même, lorsqu'on a les intuitions de ce qui se passe. Parce que justement, qu'on soit passionné par tout ça, qu'on soit vraiment en empathie avec les autres et en rentrant dans les émotions ou en sortant, ou qu'on garde un niveau d'analyse objective, soi-disant, qu'on soit tout seul dans son coin en train de réfléchir à ce qu'on fait, les travaux qu'on fait tout seul, ou en interaction avec les gens, avec un objectif bien précis, soit de formation ou de conseiller, ou de psychothérapeute ou d'enseignant, ou qu'on soit tous ensemble en train de faire quelque chose. La chose importante, bien sûr, c'est les personnes. Tu sais pour toi-même et tu sais pour les autres, n'est-ce pas? Et parfois, tu sais pour toi-même et tu t'en fous complètement des autres. Et parfois, tu n'as pas la moindre idée de quoi je parle, mais ça fait rien, ça va marcher quand même. De toute façon, chacun est différent, donc ce qui marche pour moi ne va pas nécessairement marcher pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, on l'entend aussi quand on parle. De toute façon, lorsqu'on fait des choses ensemble ou est en train de lire quelque chose, le nombre de fois requis, immédiatement, ou même si on n'est pas tout à fait convaincu et qu'on reste sur son scepticisme, à la longueur de la journée, ça y est, j'ai terminé. Voilà. Okay. Merci. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi pendant ces 3 jours de vous connaître et je dois vous faire un feedback si je peux. J'étais très impressionnée de votre testing et votre habileté linguistique et je trouve que tout le monde, vous avez le droit à vous féliciter vous-même. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et je vous souhaite bon voyage.
Merci.
Merci.